Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce sixième numéro de C'est la faute à la manette, la seule émission de radio Tourangelle entièrement consacrée aux jeux vidéo. Que vous soyez ange, que vous soyez démon, que vous soyez seulement reptilien ou illuminati, le sujet d'aujourd'hui devrait vous plaire. Alors si vous êtes une personne normale, restez quand même, hein. Après tout on est là pour vous convertir au monde merveilleux du jeu vidéo. Autour de la table et comme chaque semaine, il est beau, il est jeune, il a des lunettes et il dort selon la légende seulement une seule et unique fois par an. J'ai nommé Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas dormi, ça va faire presque 365 jours, donc...
Tu vas faire une bonne sieste demain, je pense. Alors, quel est ton jeu du moment, Guillaume ? Et surtout, une question importante, puisque c'est une spéciale Devil May Cry, est-ce que tu es plutôt Ebony ou Ivory ?
Alors déjà, pour les jeux du moment, donc, j'aime bien jouer à Munitionnut sur Super NES. Et aussi, je joue un peu au jeu qu'on va parler au test de la semaine. Et sinon, Ebony ou Ivory, je dirais l'arme la plus claire. Je la trouve la plus jolie, mais je ne sais pas les noms, donc...
Je crois que c'est...
Ivory.
Ivory, ouais, sûrement.
Ok.
Alors, voilà. Également, juste en face de moi, il est barbu, il est puissant, il peut débattre de la forme d'une boîte à pizza pendant près de 8 semaines, c'est Tom. Salut Tom.
Salut Julien, salut tout le monde.
Alors, quel est ton titre de PC Master Race du moment ? Alors, et est-ce que tu es plutôt Dante ou Virgil ?
Alors, mon titre de PC Master Race du moment, c'est Elite Dangerous, qui consomme 99% de mon temps. J'ai repris Far Cry 3 aussi, mais je suis complètement Dante et très peu Virgil.
D'accord. Alors, cette semaine sera placée sous le signe d'une des meilleures séries de tous les temps, donc on le dit à chaque fois, mais cette fois c'est vrai. C'est une série qui a fait entrer le monde des beat 'em all dans le 21e siècle, donc j'ai nommé Devil May Cry. Est-ce que tu peux nous rappeler, Tom, ce qu'est un beat 'em all ?
Alors, un beat 'em all, c'est un jeu où on guide un personnage qui est donc soit en vue donc 2D, comme un Mario, comme les vieux jeux comme Double Dragon, qui étaient les premiers beat 'em all, soit en 3D, comme en fait Devil May Cry. Donc, Devil May Cry a fait rentrer réellement le beat 'em all dans la 3D. Et c'est un jeu où on est seul contre tous, on se bat souvent au corps à corps.
Voilà.
Et donc, parfois avec quelques armes, mais qui n'est pas la composante principale.
D'accord, et ben voilà, très bien. Donc, comme ça. Ça, nos auditeurs sont au courant. Alors du coup, plutôt que de revenir sur l'intégralité de la série, donc ce qui serait un petit peu long en une heure, on va revenir sur le reboot polémique de la série sortie en 2013, donc appelé sobrement DMC Devil May Cry. Donc certains d'entre nous ici l'adorent, j'en fais partie, d'autres autour de la table ne l'aiment pas trop,
et j'en fais partie.
Il en fait partie, mais nous allons y revenir.
Et moi je suis la Suisse.
Toi tu es la Suisse, exactement. Alors, comme à chaque fois, vous aurez droit à 6 news, donc triées sur le volet, sur fond de musique de Persona 3, dont une news surprise de Guillaume qui vous a préparé un tutoriel aux petits oignons.
Oui,
aux petits
c'est
oignons.
Ça, c'est ça.
On a hâte.
Le test de la semaine également présenté par Monsieur Guillaume, toujours.
Oh là là.
Qu'est-ce que tu fais comme chose cette semaine, c'est incroyable. Et ainsi qu'un quiz secret, cette fois réalisé par Tom, puisque j'en avais marre de les faire, donc avec l'inauguration du gage pour le perdant.
On change de présentateur et le perdant aura un gage.
Voilà. On passera ensuite à la partie débat, on reviendra donc sur le reboot du jeu et en quoi ce dernier nous a divisé, donc un bien beau programme. Donc, est-ce que vous êtes prêts du coup pour les news ?
On est prêts.
On est prêts.
Ok, alors on va commencer avec toi Tom.
Oui, alors, j'ai une petite news pour vous. qui concerne Bungie, donc qui était mon studio de jeux préféré, qui ont fait Halo et qui ont aussi récemment fait Destiny.
Jeu que tu adores.
Que j'adore, effectivement. Mes chers auditeurs, ne jouez pas à Destiny, s'il vous plaît. Toujours est-il que, donc, même si vous ne suivez pas avec assiduité tout ce qui concerne le studio de Bungie, peut-être que donc, vous ne connaissez pas Harold Ryan. En fait, c'était le président du studio Bungie depuis les années 2000. Et en fait, voilà, il vient de partir, en fait. Son départ vient d'être officialisé par la boîte. Et donc, bah, c'est vraiment... c'est une page qui se tourne, en fait, parce que c'était quelqu'un donc, qui faisait tourner le studio et donc qui est à l'origine de tous les Halo jusqu'à Halo Reach.
Ça fait une quinzaine d'années, un peu
voilà,
plus même.
Donc,
qu'il
ça
était...
fait surtout 15 ans donc, qu'il était dans sa boîte. Il y a eu aussi donc, le départ de plusieurs autres membres de Bungie. Donc, en fait, Bungie se vide. On peut, par exemple, penser à Marty O'Donnell, qui a fait donc, les musiques de Halo.
Ouais.
Donc, celle que tout le monde connaît, hein, c'était lui. Donc, il est aussi parti. Voilà, Bungie perd aujourd'hui son président. Pour le moment, donc on n'a aucune raison qui a été donnée, ce qui est bon, un petit peu énigmatique.
Un petit peu inquiétant.
Il a été remplacé donc par un certain Pete Parsons, qui est l'actuel donc directeur des opérations.
D'accord.
Voilà. Apparemment.
Apparemment, oui.
Ce changement n'aurait aucun impact sur le suivi de Destiny.
Alors,
bon, alors voilà,
ça
aurait peut-être
dire
été
que...
mieux que ça qu'il y en eut.
Est-ce qu'on peut dire que Bungie se vide un petit peu comme les DLC de Destiny?
Alors il se trouve qu'il n'y a plus de DLC de Destiny, donc peut-être qu'il y a déjà plus de personnel chez Destiny, je ne sais pas.
D'accord, alors du coup on va parler de Red Dead Redemption, donc ce jeu dont on vous rabâche les oreilles je crois depuis quelques émissions, je crois qu'on avait déjà parlé
un petit peu
ici. Red Dead Redemption, c'est cette série qui a plutôt bien marché sur la génération précédente. Vous incarnez un cow-boy, vous êtes dans l'Ouest, fait par les réalisateurs de GTA, donc une pointure en la matière pour un excellent jeu. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Xbox One est rétro-compatible, donc elle peut faire tourner les jeux de sa prédécesseuse, voilà, la 360. Et du coup, le jeu Red Dead Redemption est apparu dans la liste des jeux rétro-compatibles avant d'être enlevé. Alors, selon Microsoft, c'était une erreur et le jeu arrivera un petit peu plus tard puisqu'il est encore en phase de bêta-test. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que la série n'est pas abandonnée et qu'on aura sûrement des nouvelles d'une saga que tout le monde adore ici. Pour une fois, on est d'accord.
C'est
un des meilleurs jeux de la génération précédente et on est très, très, très impatients d'y rejouer. Voilà.
Ah oui.
Alors, Guillaume, première news
alors,
pour toi.
Ma première news sera donc consacrée au studio EA, donc Electronic Arts, qui a annoncé ne pas participer cette année à l'E3. Donc l'E3, c'est quoi? C'est le plus grand salon de jeux vidéo du monde, qui se passe à Los Angeles tous les ans, vers le début du mois de juin. Donc E3, ça veut dire ça. Electronic Entertainment Exposition, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc à la place, ils vont faire comme pour Nintendo, ils vont faire une conférence, mais en interne, du coup, et ils vont présenter leur jeu, mais... La fonctionnalité qui risque d'être intéressante, c'est qu'ils proposeront aussi des démos de ce qu'ils vont présenter directement aux joueurs. C'est pour l'instant la rumeur, donc ça veut dire que, comme ils avaient fait par exemple pour Battlefield Hardline, où on avait pu, certains avaient
s'inscrire
pu y
à
jouer
la
directement, non, on avait pu y jouer même le soir même de la conférence.
Vrai, c'est vrai.
Donc peut-être que là on aura le droit de jouer, je sais pas, au prochain DLC de Battlefront, à peut-être une démo de Mass Effect Andromeda.
Oui.
Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant ça peut être une bonne idée. Après c'est dommage parce que le 3 reste quand même... Il y a toujours ce côté spectaculaire qui était intéressant à voir, mais bon, on verra.
Du coup, ils se la jouent un petit peu Nintendo. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est totalement ça.
Pour le coup, je suppose que ça va leur permettre d'avoir un plus grand contrôle sur ce qu'ils montrent, de pas avoir...
Et d'éviter d'avoir des erreurs en plein milieu de
voilà,
la scène comme les années précédentes.
On peut parler de la conférence où on présente Wii Music.
Ça a servi de leçon à beaucoup de personnes et je crois que beaucoup vont emboîter le pas. On voit que le 3 est en déclin à cause de ce genre de choses, justement.
En tout cas, pour les petits, les gros
pour
éditeurs,
les gros éditeurs,
pas les constructeurs.
Ouais. Exactement, exactement. Du coup, à toi,
Tom. Oui, c'est de nouveau à moi. Il se trouve que y a le studio Insomniac Games, qui est donc à l'origine de la bonne série, voire très bonne série Ratchet & Clank, qui va faire une petite pause niveau des titres AAA, donc du plus gros titre. Ils vont faire un Metroidvania, donc un jeu d'exploration un petit peu mystérieuse qui s'appelle Song of the Deep, qui est un jeu d'action-exploration en sous-marin, qu'on peut découvrir avec un teaser dès maintenant, que vous pouvez trouver sur Internet, et une vidéo de gameplay même sur le site IGN, et donc quelques petites images. Donc c'est, alors, le titre est directement édité par GameStop, donc c'est une ancienne, une enseigne de vente aux États-Unis.
Oui. Donc, un petit peu comme Micromania chez nous.
Voilà, pour, exactement. Pour, donc imaginez par exemple que Auchan sort un jeu. donc le titre sortira cet été en dématérialisé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au prix de 15€. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre de voir qu'un revendeur se mette à carrément éditer des jeux. Bon, on va voir ce que
attends
ça donne.
Voir, ouais.
De toute façon, Insomniac, c'est plus ou moins.
Oui,
ou moins
c'est,
un très bon
c'est
studio,
le bon plan de toute façon, oui. Et on mettra du coup la vidéo sur notre page Facebook, hein, comme ça, histoire que vous n'ayez pas à la rechercher.
Si
on fera un post général
voilà,
avec toutes les vidéos.
Avec le podcast, on mettra des infos et aussi sur le post sur le Facebook.
Oui. Voilà.
Julien, t'avais une autre news pour
oui,
nous.
Oui, alors je vais vous parler de Fire Emblem, cette série qui a été méconnue chez nous jusqu'en 2012. Et un jour, Nintendo a décidé de la sortir sur 3DS et d'un coup... C'est devenu une série très populaire et très appréciée. Donc Fire Emblem, c'est un tactical RPG, donc c'est un petit peu comme jeu aux échecs, mais avec des pouvoirs et des épées. C'est un peu ça,
oui,
hein, on peut le dire. Alors, après le premier épisode où les persos n'avaient pas de pied pour manque de puissance de la console, ils vont sortir un nouveau Fire Emblem, du coup, qui s'appelle Fire Emblem Fates, et qui est au cœur de plusieurs polémiques. Alors, après avoir enlevé les relations homosexuelles entre les persos pour l'Europe... Ils vont également censurer une scène lesbienne, du coup.
D'accord,
ah,
très bien.
C'est triste, hein.
J'avais entendu une autre petite polémique là-dessus, où ils avaient enlevé une autre scène.
Oui, bah, c'est ça, justement, une scène homosexuelle, une scène lesbienne. Ils ont en plus, on apprend qu'on n'aura pas les voix japonaises en France pour une question de droit. Alors, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, parce qu'apparemment, c'est des doubleurs assez connus au Japon.
D'accord.
Qui, voilà, il y a sûrement un problème de droit entre l'Europe et... Et le Japon.
Et
voilà.
Du coup, moi, je pensais à une autre censure. Il se trouve qu'en fait, ils ont mis plus ou moins la même chose que dans Pokémon. On pouvait gratouiller ces Pokémon dans le dernier X et Y, ou à la manière en fait d'une sorte de Tamagotchi, mais en tactile. On pouvait le faire donc avec nos héros, donc qui sont des humains, évidemment.
On pouvait le faire.
Voilà, et on peut le faire dans la version japonaise. Ah. Donc ils ont enlevé ce truc-là aussi dans la version européenne parce que c'est chelou.
Oui, c'est un peu bizarre, surtout que c'est censé malsain. Être des enfants de voilà. 13-14 ans. Je pense que
voilà,
c'est un petit peu
particulier. Au sujet de l'homosexualité, ils ont dû censurer aussi une scène qui a fait polémique parce que il dépeignait un petit peu l'homosexualité comme une maladie.
Ouais.
Un personnage était homosexuel et devait prendre une potion pour se soigner de son
d'accord.
homosexualité.
Bon.
Merci le Japon, arrêtez
ouais.
s'il vous plaît.
Du coup, une dernière news pour toi,
oui,
Guillaume.
Oui, voilà. Alors donc la semaine dernière, il y a deux semaines, on a parlé de Pokémon et de ses 20 ans. Et du coup,
oui.
donc Nintendo avait lancé le programme pour chaque mois, vous receviez sur votre Nintendo 3DS sur Pokémon X ou Y ou sur Pokémon Ruby et Omega et Saphir Delta. Et du coup, ce mois-ci, on devait recevoir Mew. Mew a été distribué donc dans toute l'Europe, sauf en France. Donc normalement, la distribution se fait normalement via le magasin Micromania. C'est en vous connectant dans une borne Wi-Fi en fait, du magasin, vous receviez un code et vous pouvez télécharger le jeu. Et ça ne s'était pas fait. Et du coup, j'ai fouiné un peu sur Internet et j'ai trouvé une astuce. Donc il vous suffit de suivre un petit tutoriel du site Pokébip, donc un site très bien connu pour tout ce qui est information Pokémon. Il vous suffit en fait de télécharger un tout petit logiciel, de faire une invité de commande, de faire une ou deux lignes de commande, et hop, vous connectez votre 3DS à votre PC, et hop, le tour est joué, vous recevez Mew, donc j'ai réussi tout à l'heure, et ça marche impeccable.
Bon, bah
donc,
voilà, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, on mettra le lien hein, de toute façon.
Est-ce que tu as eu du mal à faire cette manipulation ?
Alors non, en fait, tout est très bien expliqué sur le
d'accord.
site de Pokébip. Voilà, et donc en fait, ça fait comme si vous étiez dans un magasin game en Espagne.
D'accord.
Tout simplement.
D'accord, ok.
Et ça marche parfait, voilà.
Mais bah c'est très bien, je pense que ça fera plaisir à nos amis Pokémaniacs
tout à fait.
Qui nous existaient dans le coin.
Voilà.
On fait une petite pause
musicale
avant
ouais,
de reprendre avec le test et le quiz de Tom.
Et le quiz.
Je suis impatient de découvrir.
Donc on s'écoute Valkyria Chronicle, donc l'OST avec la musique Battle. On se retrouve juste après sur Radio Campus Tour, 99.5 FM, dans l'émission C'est la faute à Manetta. Tout de suite. We'll be right back. On est de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission C'est la faute à la manette. Et tout de suite, je passe au test de la semaine. Donc, comme c'est moi qui m'y colle, pas besoin de faire parler les autres. Hein, voilà, je prends
On t'écoute, Guillaume.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, comme à mon habitude, d'un Assassin's Creed.
Wow. Et là, donc,
le dernier en liste, Assassin's Creed Syndicate. Donc, c'est le dernier sorti du studio d'Ubisoft qui est sorti en novembre dernier, novembre 2015. Et là, cette fois-ci, donc, le jeu nous parle, donc, est sorti sur PC, Xbox One et PS4, bien entendu.
Et pas sur Wii U.
Et pas non. sur Wii.
Incroyable.
Étonnamment. Bah, Unity non plus n'était pas sorti sur Wii U.
Ça fait longtemps.
Oui, en même temps, je ne pense pas qu'elle ait la puissance pour le faire tourner. Donc, ça nous raconte l'histoire, pour faire vite fait le topo. Donc, c'est toujours une séquence au présent qui nous emmène dans la machine intitulée l'Animus, qui nous fait revivre la mémoire de nos ancêtres. Donc là, le présent est pas intéressant, donc je vais pas revenir dessus, je vais passer directement au passé. Donc ça se passe à Londres au 19e siècle, pendant la pleine période industrielle de Londres, l'âge victorien, etc., tout ça. En fait, vous incarnez Jacob et Evie Fry, donc deux frères jumeaux assassins, frères et sœurs jumeaux qui sont assassins, et qui en fait veulent, donc Jacob lui veut enlever... Le chef au pouvoir qui contrôle Londres, qui s'appelle Monsieur Starrick, et alors que Evie, elle, cherche plutôt à retrouver les fragments d'Eden pour éviter que les Templiers dominent le monde, blablabla. Bla, bla. Donc en fait, chacun a une envie particulière, mais au final, c'est des chemins qui s'entrecroisent au final. Mm-hmm. Donc voilà. Alors, pour en reparler, donc, je vais le comparer d'abord à Unity. Donc, techniquement, Unity avait été magnifique, somptueux, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas été optimisé sur nos consoles et il avait tendance à laguer, à pas être fluide.
Et à bugger aussi.
À bugger aussi beaucoup. Là, Ubisoft a compris la leçon à ce niveau-là. Ils ont peut-être un peu baissé les graphismes et en jouant aussi beaucoup sur l'aspect pollution, etc., de la ville. Donc, ça, maintenant, le jeu est beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable à jouer. Mais par contre, le gros souci, c'est que le jeu n'est pas intéressant du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve à... Donc en fait, vous avez la ville de Londres entière dominée sous différents quartiers par différentes personnes.
D'accord.
Et ce qu'il faut faire, c'est pour libérer une zone, vous devez faire chaque mission de chaque bout du quartier. Dès que le quartier a été entièrement libéré, vous devez vous battre contre le chef de la zone et vous libérez la zone. Et ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez quelques missions secondaires après. Par exemple, vous rencontrez Charles Dickens, Darwin, et j'en passe. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, c'est tristement vide, scénaristiquement parlant. C'est toujours Jacob qui fait « Oh là là, moi je veux avec ma troupe de gars, on va aller péter la gueule à tous les autres méchants. » Et après, Evie qui arrive « Mais non, Jacob, il faut aller chercher le fragment d'Eden pour sauver le monde des Templiers. » « Oh bah non, moi je veux péter la gueule aux gens !» Et voilà, et ça, c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on a deux personnages très clichés. Jacob, qui est le gros bourrin, qui sert juste à taper. Et Evie...
Qui est un peu plus réfléchi.
Qui est un peu plus réfléchi, voilà. Intelligente, belle, etc. Voilà. Et le problème, on pourrait se dire, ça peut être intéressant. Au pire, si par exemple, on crée deux personnages avec des utilisations différentes. Mais le souci, c'est qu'on se retrouve avec deux personnages qui servent à la même chose. L'un n'est pas plus puissant que l'autre, à part que maintenant il y a du coup un système de compétences, donc pour faire évoluer vos personnages, qu'ils soient plus silencieux, qu'ils soient plus forts, etc. Et genre par exemple pour Jacob a une seule compétence qui n'est qu'à lui, donc c'est une des dernières débloquées en plus. Et Evie en a trois, c'est-à-dire du coup que pendant tout, je pense, les 80% du jeu, vous vous retrouvez à avoir des personnages identiques. Et par contre, vous pouvez les points d'XP se dépensent librement, c'est-à-dire que vous pouvez dépenser ceux d'Evie et ceux de Jacob différemment.
D'accord.
Donc après, vous pouvez par exemple vous dire, tiens Evie, je vais plus m'en servir pour ouvrir les coffres, donc améliorer son crochetage, améliorer sa discrétion. Jacob, je vais plus améliorer sa mutilation, son carnage, etc. C'est après libre de vous, mais le jeu ne vous incite pas à le faire.
D'accord.
Ce qui est assez dommage en fait, parce qu'au final, vous pouvez vous retrouver comme dans tous les Assassin's Creed, avec un héros surcheaté, inutile. Après, il y a un truc intéressant aussi, c'est que les quartiers, du coup, sont divisés en niveaux. C'est-à-dire que si vous voulez être dans un quartier, il faut avoir un niveau. Sinon, vous vous faites rétamer facilement. C'est pas genre, ouais, il est niveau 10, je lui fais des contres et je vais le tuer à la fin. Non, là, si vous faites ça, c'est mort. Il
faut être très entraîné déjà.
Il faut être très entraîné. C'est-à-dire que si, déjà, moi, je suis niveau 5, je me retrouvais avec des policiers niveau 4, j'en venais à bout, mais c'était chiant, quoi. Alors, non, c'est plutôt intéressant. Les combats sont plus intéressants que dans Unity. Mais manque toujours un truc, il n'y a pas assez de combos, c'est toujours les mêmes animations, c'est assez triste. Donc voilà,
okay.
Je dois être déjà à plus de 6 heures de jeu, j'ai déjà 20% de jeu terminé. Donc franchement, je n'en attends rien de ce Syndicate. Il ne m'a pas surpris du tout pour le moment.
D'accord. Alors moi, j'avais quelques questions à te poser
moi aussi.
Du coup. Bah attends, je...
Vas-y, Julien, commence.
Alors juste, on va juste revenir sur la partie présent, parce que moi, c'est un peu ce qui m'intéresse. Est-ce que du coup, ça suit la continuité de Black Flag ou plutôt de Révélation où il n'y avait vraiment déjà plus rien, où c'est plus des flashbacks assez...
Alors non, en fait, tu commences le jeu, tu vois un chargement du coup de la machine Animus.
D'accord.
Et là, en fait, tu vois la machine qui se fait hacker avec le logo des assassins en disant « Oui, nous sommes des assassins, voilà. » Et tu te retrouves après avec des personnages de Assassin's Creed 2, donc Sean et Rebecca, qui sont en train de hacker un PC dans d'une templière à Londres. Donc tu vois une carte du monde avec comme quoi Paris a été libéré grâce aux événements d'Unity. Et donc là, c'est les événements de Londres. Et tu vois la templière arriver en fait dans son bureau et il y a un braquage qui se fait parce que bah, la templière n'est pas arrivée seule. Et tu vois Rebecca et Sean se barrer par un coup d'explosion et sauter par la fenêtre.
Donc, d'accord.
Pour l'instant, rien de très intéressant, mais c'était... Moi, j'étais content quand même de voir Rebecca et Sean.
Mais est-ce que tu peux sortir de l'Animus, en fait? C'est surtout ça pour...
Alors, non. Tu fais Start, quitter, tu te retrouves en fait au menu du jeu qui te propose continuer et le chop.
D'accord, bah vas-y.
Simplement. Alors moi, j'avais une question plutôt d'ordre gameplay. Tu disais donc qu'on avait deux personnages, mais est-ce qu'on peut changer à la volée comme on veut?
Ah oui, totalement. Alors, t'as quelques missions où faut être Jacob ou Evie. Par exemple, si c'est des missions où c'est plus Fragment d'Eden, c'est Evie qui va faire « Non, c'est moi qui m'en occupe ». Si c'est des missions où il faut péter de la gueule, ça va être Jacob qui va faire « Ouais, je m'en occupe ».
D'accord.
Voilà, mais sinon, oui, en fait, tu appuies sur Start et tu appuies sur ton stick droit. Et hop, ça te switch. Donc
d'accord.
Aucun temps de chargement, ça... Voilà,
ça donc ça, au moins, c'est plus agréable.
Ouais. C'est agréable, ouais.
Et du coup, deuxième question de gameplay. Vu comment tu décrivais la structure du jeu, en fait, c'est un petit peu comme Brotherhood que le jeu se passe.
C'était c'est un peu comme Far Cry 4, surtout, je trouve.
Ah, peut-être, oui, mais... Brotherhood qui se passait, si j'ai bonne mémoire, à Londres, c'était celui-là?
Non, Londres, c'était à Rome.
À Rome, oui, tout à fait. Qui se passait à Rome où il fallait libérer la ville des Borgia.
Ouais, c'est ça. C'était Oui, t'avais l'aspect confrérie qui était mis en avant aussi. Mmh. Alors là, oui. C'est sauf que dans Brotherhood, t'avais toujours le côté credo. Nous sommes des assassins. Là, c'est vas-y, faut juste péter la gueule au rouge et toi t'es les verts. Hein,
ah oui, d'accord.
Il y a plus du tout l'aspect nous sommes des assassins credo. C'est on enlève une tyrannie pour finalement en instaurer une nouvelle. Mmh. C'est finalement ça parce que. Pourquoi pas libérer tout simplement et dire voilà, vous faites ce que tu veux. Bah non, il y a toujours tes verts qui sont dans les quartiers après.
Ouais, ok.
D'accord. Et est-ce, juste une question à la con, est-ce qu'ils ont des points d'XP communs?
Alors oui, en fait, oui.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand tu. Tous les 1000 XP, en fait, tu reçois un point d'expérience.
D'accord.
Et avec ces points d'expérience, tu achètes des compétences qui te font monter de niveau. Donc c'est le schéma un peu inversé des jeux habituels.
Ouais.
Et du coup, oui, en fait, dès que par exemple tu finis une mission, chacun va avoir cette expérience. Du coup, des fois, si, moi par exemple, ça m'arrive de jouer qu'avec Evie, tu retournes sur Jacob, bah, il a plein de compétences non utilisées, il faut que tu les ajoutes pour qu'il monte de niveau en fait.
D'accord, bon, ok, bah moi j'ai plus de questions du coup.
C'est bon pour moi
donc,
aussi.
Est-ce donc est-ce que tu le conseillerais du
au
coup,
final
c'est
alors,
syndicate,
moi,
et à combien?
Pour le moment, je l'ai acheté à 30€, donc quasiment deux fois moins cher que son prix normal. Je trouve que ça reste encore un tout petit peu trop cher. Peut-être attendre que le jeu se trouve à, je dirais, une vingtaine d'euros. Ou alors 30€, mais avec les DLC, parce que j'entends que du bien du DLC sur Jacques l'Éventreur. Donc peut-être attendre une édition
complète,
voilà.
Ok, et très bien, parfait. Et merci Guillaume, et on va passer du coup au fameux quiz de Tom.
C'est parti pour le quiz. Alors, cette semaine, j'ai préparé une grosse dizaine de questions, et vous allez répondre en levant la main, je vous donne la parole, et je compte les points. Celui qui perdra aura donc un petit gage qui se fera dans l'émission, donc dans la prochaine émission. Alors, au début, trois questions plutôt faciles. Combien de jeux Mario à la louche?
Combien
il existe de jeux Mario à la louche, Julien?
Je dirais 90 à
90
peu près.
Non. Guillaume, c'est ton tour.
Je dirais une cinquantaine.
Une cinquantaine, c'est Julien qui est le plus proche, mais alors de loin par contre, parce qu'il y en a plus de 250.
Alors, c'était Mario ou Mario et ses dérivés?
Combien de jeux Mario? Mario en entier, en
d'accord.
Fait.
D'accord.
Alors,
en fait,
dans
on
la...
fait le juste prix.
Et j'ai un point, du coup.
Tu as un point, Julien.
Bravo.
Dans la même série, combien de jeux de la série Castlevania, Julien?
Je dirais une trentaine.
D'accord, Guillaume?
Une trentaine, ça fait beaucoup quand même.
30, on va dire.
Une quinzaine.
Une quinzaine, c'est encore Julien qui gagne. Il y a 38 jeux
Castlevania. Ah, 38, j'étais pas loin.
C'est une série tentaculaire que moi, j'étais moi aussi surpris qu'il y en ait autant.
Il y a beaucoup de dérivés à la... un peu idiots en plus de Castlevania.
Oui, effectivement. Ouais. Il y en a pas mal. Alors là, maintenant, question un petit peu rigolote. Quelle info de la dernière émission était fausse?
Quelle info de la dernière...
Je vous la reformule. Dans la dernière émission, il y avait une de nos infos qui était fausse. Laquelle?
Dans les news ou dans Pokémon?
Dans les news.
Dans les news. C'était pas celle sur, sur le Senzro?
Eh bien, non.
Non.
Guillaume, c'est ton tour.
Je réfléchis. J'ai pas
du
tout.
Attention, tu vas perdre la main. Je redonne la main. Le premier qui lève la main.
Je pense que je l'ai pas là. Mais
je passe.
Ça va être du zéro.
Vous passez. Alors, c'était la news sur Bravely Second, qui en fait n'est pas encore sortie.
C'est pour ça que je l'ai pas trouvé.
Voilà, c'est à dire que nous avons donné, et moi-même d'ailleurs, j'ai dit que acheter Bravely Second qui vient de sortir, ce n'était pas encore le cas.
Et ben voilà.
Bravo,
désolé,
c'est ta faute.
Désolé aux milliers d'auditeurs qui sont allés le chercher.
Bravo la qualité, Thomas.
Voilà, grande qualité. Maintenant, on va passer au placement de produits. J'ai deux questions placement de produits.
Okay.
Quelle boisson n'a pas eu son jeu vidéo entre Pepsi, Heineken et 7-Up? Julien.
Heineken.
C'est Heineken. Tu marques un point.
Oh, purée.
Alors, est-ce que tu saurais me dire quel le nom des jeux Pepsi et 7-Up?
Alors, Pepsi, c'était Cool Spot, je crois.
Alors non, c'est 7-Up Cool Spot. Pepsi, c'est Pepsi Man.
Pepsi Man, voilà. C'était l'autre, voilà.
Purée.
Attention, deuxième question placement de produit. Quelle marque de bonbons a eu son jeu entre les Tagada, les Smarties et les Caransac? Guillaume.
Les Smarties, ils l'ont eu.
Les Smarties ont eu leur jeu, effectivement. Smarties The Meltdown sur PS2, un jeu fantastique. Marque-toi un point, s'il te plaît.
Je me marque un point.
Alors maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, à la troisième catégorie en fait. Je vais vous décrire un jeu en une petite phrase, et ce sera une description assez mauvaise du jeu. Il va falloir que vous trouviez de quel jeu je veux parler.
D'accord, comme si tu savais pas trop les décrire.
Exactement.
En fait. Voilà, d'accord.
Alors, on commence par Legend of Zelda au pays des démons. Julien.
Donc c'est Legend of Zelda.
Attention.
Link to the Past.
Ah non, ce n'est pas lui.
Ah
c'est
non,
un
okay,
autre jeu.
C'est un autre.
Guillaume.
Alors attends, en Zelda.
Legend of Zelda au pays des démons.
Au pays des démons. Laquelle ça pourrait être, Oh putain, je sais pas. Vas-y, je vais dire au pif Twilight Princess.
Eh bien non, c'était même pas un Zelda, c'est Darksiders. Un jeu comme Zelda.
Tout simplement.
Au pays des démons.
Bien vu.
Alors attention,
tu m'as embrouillé.
Je vous donne un petit indice pour toute la liste. Ce ne sont que des jeux qui sont sortis sur Xbox 360.
D'accord.
J'ai réduit histoire que ce soit un petit peu plus simple. Attention, deuxième description. Ce jeu est trop beau et en plus il y a une tronçonneuse. Julien.
Doom 3.
Non, il n'est. Si, il est sorti, mais c'est plus un jeu PC selon moi.
Il est sorti sur 360 et il y a une tronçonneuse.
C'est vrai.
En plus.
Dead Rising.
Non plus.
C'était
Gears of War.
Ah bah oui,
ça sortit, rappelez-vous, tout le monde disait ce jeu est trop beau et en plus il y a une tronçonneuse.
Ça compte pas comme un demi-point?
Ah non, je peux pas t'accorder un demi-point malheureusement. Troisième description, appuyer sur A pendant 50 heures. Sur 360.
50 heures.
50 heures.
Appuyer sur A pendant 50 heures.
Oh là là. Oh là.
Un indice peut-être?
Un indice, c'est un RPG.
Final Fantasy.
Il faut que tu lèves la
main. Final Fantasy 13.
Guillaume, quand même. Final Fantasy 13.
Oui.
Il l'a dit avant, je vais lui
D'accord.
accorder. C'est bien Final Fantasy 13. Final Fantasy 13 où on ne fait qu'appuyer sur A. Des fois LB, il paraît. Alors, quatrième description. Skyrim, mais fait par Capcom. Guillaume en premier.
Dark Souls, non?
Non,
bah Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma, oui.
Non.
Qui était sorti presque au même moment donc, que Skyrim et qui avait plus ou moins les mêmes mécaniques.
Mais Skyrim l'emporte.
On continue avec la cinquième description. Interview à 8h, génocide zombie à 11h. Ah, c'est Julien en
premier. Dead Rising,
oui.
Du coup, oui.
Un très bon jeu où on jouait donc un reporter dans le premier, dans un centre commercial, et donc qui avait un emploi du temps à gérer, assez serré. Et la dernière description, qui est un jeu tout orange.
Un jeu tout orange.
Est-ce que tu parles de Half-Life The Orange Box?
Non, Guillaume, ce n'est pas Half-Life The Orange Box.
C'était bien vu.
C'est un jeu qui est réellement orange, il n'y a pas de jeu de mots derrière.
D'accord.
Ah, dommage.
Quel jeu est complètement orange partout.
Sur la 360.
Sur la 360, oui.
Super Meat Boy sur une télé mal réglée.
Eh non. Allez, je laisse une dernière chance.
C'est tout orange, tout orange.
Un petit indice, sinon. Hein.
Un petit indice, c'est un jeu futuriste.
Un jeu futuriste... Ah, je l'ai pas.
IM.
J'essaye, mais...
Non plus, c'est le dernier Deus Ex, si vous l'avez joué.
Ah bah oui.
Les menus
sont
intégralement orange,
les
lumières sont oranges.
C'est vrai.
Tout est orange.
Ok.
On va passer au point. Julien, combien as-tu de points ?
Alors, j'ai 5 points.
J'en ai 2.
Tu en as 2, et eh bien Guillaume, c'est toi qui vas être
gagé.
Regarde, je vais te prêter un jeu que tu vas devoir tester la semaine prochaine. Je te laisse le découvrir et le décrire à nos auditeurs.
Alors,
que vois-tu sur la jaquette ?
Ça s'appelle Senran Kagura Burst.
Tout à fait.
On voit du coup le corps d'une jeune fille plutôt bien blottie, avec une assez grosse poitrine. Et dans cette poitrine, on peut voir un parchemin. Et on ne voit pas ses yeux, mais on peut voir qu'elle a l'air de gémir un peu.
Tout à fait. Alors, ce jeu que tu vas devoir tester, donc, est un beat'em all dans un univers de ninja dénudé.
Oui, et derrière, on voit aussi une femme avec une poitrine aussi forte, mais avec une chemise ouverte.
Voilà, donc...
ça a l'air génial.
Voilà, c'est un jeu génial. Ton gage sera donc de le tester et de nous en donner tes impressions pour la semaine prochaine.
D'accord,
voilà,
ok.
Bon courage.
Bon courage. Voilà, c'est
merci.
La fin.
Parfait,
de mon
très
quiz.
Bien, Tom, c'était super.
Eh ben merci.
On fait une petite pause musicale,
on va faire une pause musicale, j'allais te le proposer. Donc, on va s'écouter l'OST d'Uncharted Drake's Fortune avec le thème de Nathan. On se retrouve juste après sur Radio Campus Tour dans l'émission C'est la faute à manette. A tout de suite. On est toujours sur Radio Campus Tour, dans l'émission C'est la faute à la manette, et je te donne la parole, Julien.
Oui, alors on va passer au débat sur DMC Devil May Cry. Alors, avant, on va vous mettre un petit peu dans le contexte et revenir sur la série Devil May Cry en général, histoire que, voilà, que ce soit un petit peu situé et que tout le monde sache de quoi on parle. Alors, Devil May Cry, c'est une saga qui est sortie pour le premier épisode en 2001 sur PS2, donc c'était une exclusivité et ça l'est toujours, on va dire. Hein, parce que...
Plus ou moins, oui.
Pour cette génération, c'était une exclusivité.
Exactement, à l'époque.
Voilà. Alors, c'est un jeu au développement un petit peu difficile, bâti sur les cendres d'une autre saga culte de chez Capcom, Resident Evil 4. Alors, Devil May Cry, concrètement, c'est un vestige de ce qu'aurait dû être Resident Evil 4.
Tout à fait.
Les développeurs s'étaient un petit peu trop lâchés, et Capcom leur a dit « Écoutez les gars, c'est très bien ce que vous avez fait, sauf que c'est plus Resident Evil, faites-en une autre série, et ça pourrait sûrement marcher ». Du coup, ils ont fait Devil May Cry, ce qui explique aussi pourquoi le jeu, à l'époque, avait encore des caméras assez fixes. C'était pas très fluide, plutôt statique. Donc, le premier est sorti en 2001, le deuxième est sorti en 2003, si je ne m'abuse, et le troisième en 2005. Mmh. Il y a eu des suites moins bonnes que d'autres. Je pense qu'on peut penser au deuxième épisode qui était horrible.
Qui était très mauvais.
Très, très, très mauvais. D'ailleurs, on se demande comment ils ont pu le rater après avoir fait un jeu aussi bien.
Surtout.
suivi d'un troisième volet qui était, lui, excellent et qui reste encore aujourd'hui une référence pour les fans de la série et aussi pour les fans
de Beat 'em All en
général. Et un quatrième épisode, un petit peu plus moyen, mais pas mal non plus.
On va dire en demi-teinte.
En demi-teinte, sorti sur Xbox 360 et PS3. Voilà. Donc, il y a eu un reboot, du coup, en 2013, donc une remise à zéro totale de la série.
C'est ça, et donc c'est de celui-là qu'on va parler.
C'est de celui-là qu'on va parler, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, je vous fais juste une petite description vite fait. Donc, DMC Devil May Cry, c'est un jeu vidéo d'action développé par Ninja Theory, donc un studio qui n'est pas le même que celui de l'époque, qui était Capcom. Édité par Capcom, du coup. Il est commercialisé le 15 janvier 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, et le 25 janvier 2013 sur PC. Il a eu le droit à une réédition sur PS4 et Xbox One milieu d'année dernière, je crois, milieu 2015. Donc on peut dire que c'est le cinquième volet de Devil May Cry. Il propose de renouveler la série sur deux nouvelles bases. Il n'intègre donc pas la continuité des épisodes précédents, ce qui est peut-être un petit peu dommage, on peut le dire.
Oui.
Voilà. Le jeu propose d'incarner une nouvelle version de Dante totalement réinventée, notamment dotée de nouvelles origines, représentée plus jeune et évoluant dans un univers différent, ce qui... Moi, je trouve que ça lui donne de l'intérêt. Après, alors, toi,
voilà, on va en reparler.
Je pense un petit peu moins.
C'est quelque chose qui a beaucoup divisé.
Du coup, je te laisse nous parler du synopsis, Tom.
Mets-nous
dans le contexte.
De ce DMC Devil May Cry, en fait, reprend des éléments de l'ancienne trame narrative, mais essaye de les simplifier, en fait, parce qu'il se trouve que les DMC n'étaient pas connus pour leur scénario fantastique. Et donc là, ils ont essayé de proposer un DMC avec une histoire qui se tient, qui fait un petit peu, on va dire, film d'action déjanté. Le pitch, c'est que donc, le monde est presque sous le contrôle total de Mundus, qui est le roi des démons, qui tient en fait le monde par la dette et le contrôle de l'information. Et donc Dante, qui est le fils de Sparda, un démon, et Eva, un ange, et donc un jeune chasseur de démons qui est complètement arrogant, ils sont avec son frère jumeau, donc Vergil, les derniers Néphilim, donc croisement entre un démon et un ange. Selon la légende, en fait, seul un Néphilim serait capable de tuer le roi démon. Donc ils sont traqués par Mundus, forcément. Et Dante, aidé de donc, deux personnages, donc son frère Vergil et une femme qui s'appelle Kat, qui vont se rencontrer, et donc armé de sa fidèle épée Rébellion et de ses pistolets donc Ebony Ivory, donc toujours des marques de la fabrique, vont tenter donc de sauver le monde de cette tyrannie.
Voilà, bah écoute, je pense que c'est très bien résumé, du coup. Donc avant de rentrer dans les détails, je voudrais savoir un petit peu comment vous avez connu alors soit ce reboot, soit la série en règle générale, et par lequel vous avez commencé, lequel est votre préféré jusque-là. Tom,
alors moi j'ai commencé par donc DMC, le premier, Devil May Cry, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que je l'ai fait, parce que j'ai eu ma PlayStation 2 assez tard, donc je ne saurais pas donner une année.
D'accord.
Mais je sais qu'il était sorti depuis longtemps, et donc on me parlait depuis longtemps de cette série qui était vraiment très très bien, et j'ai commencé par le premier, que j'ai vraiment aimé, ensuite j'ai fait le 3, qui est donc selon moi le meilleur, puis ensuite, bon, quand il y en a qui sont sortis, je les ai achetés dès que possible. Donc ce DMC Devil May Cry, on me l'a prêté un mois ou deux après sa sortie, et donc moi personnellement je ne l'ai pas beaucoup aimé. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi.
D'accord, Guillaume.
Alors moi, bah, je me rappelle à l'époque, moi je n'avais pas de PS2, mais j'en entendais beaucoup parler de Devil May Cry. Et du coup, quand j'ai pu, je me rappelle à l'époque, je fouinais un peu sur le Xbox Store et j'avais trouvé du coup la démo du 4 sur Xbox 360. J'avais aimé, j'avais plutôt aimé le gameplay, etc. Et après, du coup, tu m'as fait tester le DMC Devil May Cry et j'ai apprécié aussi le gameplay, même si c'était... Bah, j'ai trouvé modernisé, mais pas désagréable dans le sens modernisé. Après, moi, j'ai pas tout l'aspect scénaristique que tu parlais avec les changements d'origine, etc. Mais sinon, les sensations étaient agréables et bien à jour.
D'accord, très bien. Alors, moi, j'ai découvert la série pareil que toi, hein, sur PS2 à l'époque, un petit peu plus tard aussi, parce que j'ai acheté ma PS2 sur le tard. J'avais acheté le premier, le deuxième et le troisième en même temps. Du coup, j'ai eu l'occasion de me faire à la série. Et effectivement, comme toi, je te rejoins au moins sur le début. Le premier est incroyable, le deuxième est une horreur sans nom.
Très mauvais.
Comment on pourrait l'expliquer ?
Disons qu'ils ont essayé de faire des changements qui n'ont pas du tout marché.
C'est
et
ça.
Surtout, donc, un problème que moi j'ai personnellement avec le nouveau DMC, en fait, il se trouve que dans Devil May Cry 2, Dante, le personnage principal, qui est donc normalement un personnage très sûr de lui, qui fait quelques blagues.
Un peu foufou quand même.
Un peu foufou, exactement, l'ont rendu trop sérieux. Absolument horrible.
C'est vrai qu'il tire la tronche tout le long du jeu.
Effectivement, alors ce qui n'est plus le cas sur l'autre, mais j'ai le même problème qu'ils ont, changé le personnage principal qui n'est plus comme il fallait. Donc j'étais très content de le retrouver dans le 3, plus arrogant que jamais.
Donc du coup après, donc j'ai fait le 4, pareil, que j'ai beaucoup aimé, et pour moi la révélation, ça a vraiment été du coup ce reboot que j'ai trouvé incroyablement réussi. Voilà. On commence un petit peu à parler du jeu, donc on va commencer par lister ses points positifs sur lesquels on est tous d'accord. Je pense qu'on peut au moins lui accorder cette patte artistique qui est absolument incroyable, qui est néo-gothique. Hein, je pense.
Plus ou moins, oui. Disons que c'est pas réellement gothique parce qu'ils ont mis beaucoup de couleurs vives, mais ils ont essayé donc d'avoir réellement une patte artistique en fait, qui est reconnaissable. C'est au moins quelque chose qu'on peut pas enlever à ce jeu, c'est qu'il a une patte reconnaissable et qui reste constante pendant tout le jeu, surtout. Alors, ils ont essayé d'ajouter quelques petites touches, on va dire, de la culture plutôt électro.
Ouais.
Par exemple, des niveaux qui se passent dans le monde de la télévision, qui sont plutôt intéressants visuellement, qui, selon moi, dénotent complètement avec le reste de la série, qui, elle, était vraiment très gothique.
Ouais.
Mais au minimum, c'est reconnaissable et réussi.
D'accord. Est-ce qu'on peut aussi lui accorder sa bande-son, du coup ?
Alors, la bande-son, pour moi, c'est un nom. Guillaume, je sais pas ce que t'en penses.
J'ai bien aimé, moi, la bande-son.
Moi aussi, ouais. Parce que c'est vraiment très moderne. C'est vraiment des gros groupes de métal. Et ça va vraiment avec le nouvel univers, pour le coup.
Effectivement.
Je trouvais que ça a calé tellement. Ça allait bien avec l'univers. Après, c'est pas de la musique que j'écouterais personnellement, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu te bats et que t'avais ces musiques-là derrière, en etc., ça me plaisait.
Alors, moi, de mon côté, c'est quelque chose où j'ai trouvé que c'était pas un des bons changements. Je préférais ce style des anciens qui consistait de grandes musiques à l'orgue grandiloquentes pendant les phases d'exploration et donc de musique métal plutôt à l'ancienne.
Le métal qui tâche. Là,
de métal qui tâche, effectivement, ouais. Plutôt à l'ancienne pendant les combats. Alors, donc, la nouvelle OST ne m'a pas déplu, mais disons que.
Pour toi, elle n'est pas à la hauteur des précédents opus.
En fait, elle n'est pas dans la justesse, surtout des précédents opus. Même si c'est plutôt une bonne OST. C'est vraiment un avis personnel pour ce coup.
D'accord. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui a fait la plus grosse polémique finalement sur ce jeu.
Tout à fait.
On va commencer déjà par le design de Dante. Alors, Dante, c'est un personnage de base assez vampire en fait, hein, qui a des cheveux mi-longs, et tout gris.
Oui, c'est ça, complètement gris, voire blanc. Il a un manteau long rouge.
Voilà.
Voilà, une grande épée dans le dos et deux pistolets.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Dante est devenu un petit peu une espèce d'émo gothique. Comment vous le décrivez ? Il est tout maigrichon.
Il est maigrichon.
Il a les cheveux en pétard, sûrement avec
du
gel Vivaldop sur le dessus.
Effectivement.
Il a quelques tatouages et il est encore plus insolent que jamais.
Et il a un manteau bleu.
Il a un manteau bleu et le jeu, d'ailleurs, se fiche de la gueule des fans à de nombreuses reprises. En fait, tout le monde a fait une polémique sur des cheveux, en fait. Je pense que c'était un petit peu trop de la part de pour Capcom, en fait.
C'est vrai. Alors moi, je trouve que c'était une polémique un petit peu bof, en fait, parce que moi, c'est pas réellement ce que je reproche à ce jeu. Faut pas oublier que c'est un reboot, et donc ils sont forcés de changer quelque chose. J'ai trouvé Dante pas mal, en fait, dans celui-là. Je le trouve pas à la hauteur du Dante de DMC3, parce qu'ils ont plus ou moins le même âge entre le Dante de Devil May Cry 3 et le Dante de DMC Devil May Cry. Ils ont plus ou moins le même âge. Je le trouvais plus réussi dans DMC 3. Et en fait, moi, j'ai fait partie des couillons qui ont acheté le DLC pour avoir le Dante de DMC 3 dans le nouveau parce que j'avais du mal, en fait, avec ce nouveau costume.
D'accord.
Sans m'en être plein sur les forums 15-18 de jeuxvideo.com, on va dire.
D'accord.
Mais je le trouvais un peu moins réussi, un petit peu moins bien. Et moi, je voulais mon manteau rouge, quoi.
Ah, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est justement ce côté un petit peu complètement renouvelé de la série. Moi, je pense que la série a besoin d'un coup de neuf après le quatrième épisode qui tournait un petit peu en rond. Là, ils ont reposé des nouvelles bases, et malheureusement, il n'y aura pas de suite, puisque le jeu n'a pas du tout marché, mais je trouve que c'est bien dommage. On peut aussi revenir sur le développeur du jeu qui a changé.
Oui, alors c'est un studio américain. Si
oui, c'est ça,
bonne,
Ninja
c'est surtout,
Theory.
Voilà, c'est surtout ça, en fait, la principale différence, c'est que donc, c'était une série purement japonaise, et donc qui avait les qualités et les défauts des jeux japonais. Un gameplay qui avait un gameplay réellement aux petits oignons, hein, à partir du 3, c'était un gameplay précis.
Ça,
efficace.
Je pense qu'on y reviendra après la pause.
On y reviendra, mais c'est un énorme point fort du jeu. Mais par exemple, bon, voilà, il y avait des gros nichons partout, du gros sexisme, 2-3 trucs qu'on n'aime pas trop voir, ce qui est un petit peu moins le cas sur la série américaine. Par contre, selon moi, ça se fait au détriment du gameplay.
D'accord, ah ouais, tu trouves à ce point-là ?
Oui, réellement, encore une fois, on y reviendra dans la section dédiée à cet effet.
D'accord. Du coup, qu'est-ce que toi, tu reprocherais principalement à cette...
Principalement, réellement, pour moi, le mot d'ordre, c'est le gameplay. J'ai trouvé le gameplay beaucoup moins bien en fait que dans les DMC par rapport à ce qu'on nous y avait habitué. C'est peut-être aussi parce que je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait un si gros changement de gameplay. Disons que les coups ne se lançaient plus pareil. Moi j'étais habitué à une touche pour les attaques à distance, une touche pour le corps à corps, une touche pour sauter et une touche d'action.
D'accord.
Et une touche d'action donc qui la plupart du temps c'était soit quelque chose d'un coup spécial avec l'épée, un coup spécial avec les pistolets, un saut, un dash, etc. Et là on est passé à autre chose complètement différent. Donc il y avait toujours une touche épée et une touche action, mais il y avait une touche pour une deuxième arme, des grappins de partout.
C'est vrai que ça a beaucoup changé.
Voilà, j'ai trouvé que ce changement était un petit peu trop d'un seul coup.
D'accord.
Et qui en plus malheureusement pour la complexité des combos, etc., impressionnant du jeu, le système de jeu ne se renouvelait pas du tout, en fait, au cours du jeu.
D'accord.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je lui reproche.
Ok. Alors, on va rester dans la partie son, avec le doublage.
Oui.
Parce que c'est la première fois, du coup, qu'un Devil May Cry avait un doublage français, puisque tous les précédents étaient entièrement en anglais. Est-ce que vous l'avez trouvé réussi ? Est-ce qu'il vous a choqué, déjà ?
Guillaume ?
Moi après n'étant pas un connaisseur de Devil May Cry, je connaissais pas vraiment la base du doublage. Elle ne m'a pas choqué plus que ça.
D'accord.
Elle m'a trouvé plutôt agréable. Mais aujourd'hui je trouve qu'on commence à faire de plus en plus de bons boulots
au
niveau des doublages de toute façon.
Mais ton avis est intéressant parce que c'est finalement un œil complètement neuf. Finalement toi t'as connu quasiment que le dernier. Nous on a connu un petit peu tout.
Moi qui les ai tous faits, c'est le doublage en fait, je l'ai trouvé même bien. Moi je fais partie de ces gens qui, si le doublage est de qualité, je vais faire mon jeu en français. Parce que je préfère valoriser un travail supplémentaire en fait pour les non-anglophones, même si j'ai aucun problème avec l'anglais. C'est vraiment un doublage que j'ai trouvé bien. Je sais qu'il a été critiqué par certains. Je ne comprends pas. Ouais, je comprends pas vraiment pourquoi. Je l'ai trouvé
Je l'ai trouvé super réussi. J'ai trouvé que même tout passait bien. En fait, c'est vraiment dans cet esprit punk rock assez crado hein, finalement.
Oui, un petit peu crado. Ouais.
Puisque Dante, c'est vraiment le junkie finalement de base qui est dans sa caravane, qui va avoir des prostituées le soir, qui sûrement fume pas que des cigarettes. Et puis, j'ai vraiment aimé. Donc,
et moi, en fait, je pense que justement, je peux résumer probablement les défauts que je donne au jeu, au sens où ils ont changé justement que c'est un jeu punk rock et puis un jeu qui est gothique, en fait.
D'accord.
C'était un jeu qui avait vraiment de l'action gothique et ils l'ont changé par plus ou moins, du punk rock. Et c'est ça, en fait, qui m'a dérangé.
D'accord.
Réellement, à côté du gameplay, en fait, mon simple problème sur l'univers est que là, par contre, je suis capable complètement d'accepter, ce qui m'a pas plus dérangé que ça, mais c'est ce que je lui reproche, en fait, c'est d'être pas dans le même ton que les prédécesseurs.
Ok, écoute, on va y revenir, également sur le système de combat qui est quelque chose de très important dans Devil May Cry.
Tout à fait.
On va faire une petite pause musicale. Exactement.
Justement, on va écouter un peu de l'OST du DMC de Devil May Cry.
Vous ferez votre avis comme ça, vous nous direz sur les réseaux sociaux après.
Comme ça, vous nous direz ce que vous en pensez. Donc, on va s'écouter Gotago de Combichrist, donc l'OST de Devil May Cry, comme je l'ai dit. On se retrouve juste après dans l'émission Sur la faute à manette. À tout de suite. Fire! Et on vient de s'écouter donc Combi Christ Got a Go sur l'OST de Devil May Cry. Et du coup, on vient à notre débat de la semaine
sur DMC Devil May Cry,
le remake.
Alors, on va parler surtout d'un point qui est, on va dire, vital un peu dans les Devil May Cry, parce que Devil May Cry, ce n'est pas qu'un simple beat'em all, c'est aussi un jeu de compétition. C'est un jeu où le score a une place assez prépondérante, en tout cas sur les premiers opus. Tom, je pense que tu es le mieux placé pour nous en parler.
Oui.
Explique-nous un petit peu le système de combo et le système de score de Devil May Cry. Alors, qui était aussi important à l'époque.
Le système donc des originaux, hein. Ouais. C'est un jeu qui est basé sur le style. Le but,
oui,
c'est d'avoir du style, donc de se battre, en fait, d'essayer de se battre le plus possible comme dans les cinématiques, en fait, qu'on voit dans le jeu.
Avoir la classe.
Voilà, d'avoir la classe, donc c'est-à-dire de frapper sur ses ennemis, mais pas uniquement, de les envoyer en l'air, de les provoquer, de les insulter copieusement.
De varier les armes.
De varier les armes, les coups, les styles de combat.
Ouais.
Et surtout, donc, de ne pas se faire toucher, d'être le plus possible, en fait, insolent réellement avec les ennemis, de leur faire croire qu'ils peuvent nous toucher.
C'était très novateur. Hein,
voilà, c'était novateur à l'époque. Mmh. Et donc, en fait, notre style est noté sur une note de D à triple S. Et donc, il y avait tous un petit mot pour les accompagner. Donc, ouais. D, c'était dull, donc plat. S, c'était stylish, donc stylé. Ça allait donc jusqu'à smoky. In Six Style, le SSS, qui était un rang donc quasi inatteignable dans les premiers. C'était vraiment dur, il fallait une grande maîtrise en fait de la manette, des coups, des enchaînements pour atteindre ce score.
Ouais.
Et en fait, ce score nous donnait plus de monnaie dans le jeu, qui nous permettait de mieux survivre, parce qu'on pouvait s'acheter plus d'items, plus de coups, et donc plus d'items, plus de coups, c'est plus d'argent, forcément.
Et plus de style.
Et plus de style, etc., etc., etc.
Donc fric égale pognon.
C'était exactement ça, c'était fric égale style égale pognon.
D'ailleurs, on pourra vous mettre une vidéo d'un pro player sur Devil May Cry 4, qui est très impressionnante, que je vous retrouverai, que je vous mettrai sur le post Facebook avec tout le reste. C'est très, très impressionnant. C'est... En gros, c'est un pro player qui fait que des rangs triple S sur le niveau maximum de difficulté. Et c'est
juste à des choses fantastiques. Alors, il faut savoir que DMC, c'était une série où, jusqu'au troisième épisode, il était impossible de parer. Et la parade, en fait, est difficile, voire très difficile à faire dans ces jeux. C'est pas du tout comme un God of War ou comme un Darksiders. La parade, c'est à la frame près. Ça nécessite donc un certain combo, une certaine arme à faire. Ça se fait pas comme ça.
Alors, la frame...
Alors, une frame, c'est un 25e de seconde.
Voilà. En gros, vous avez 25 images par seconde sur votre écran. Il faut appuyer sur le bon 25e de seconde, donc, pour vous dire à quel point c'est précis.
Voilà, exactement. Donc, c'était un style spécial qui permettait de parer. Alors, donc ça, c'était celui des originaux.
Mais ça, c'était avant.
Ça, c'était avant. Dans le nouveau, en fait, ils ont voulu casualiser un petit peu le jeu. Alors, c'est un mot que personne aime, mais la plupart du temps, ça fait un peu du bien, en fait, aux séries. Faut pas l'oublier. Mais DMC, malheureusement, c'était un jeu qui reposait réellement sur une difficulté un petit peu ardue. Et donc là, ils l'ont rendu un peu plus facile, c'est-à-dire que les rangs étaient très faciles à avoir. Moi, donc, pour vous donner une idée, donc dans DMC 3, j'ai fait un rang triple S sur quelques missions seulement. Dans le DMC Devil May Cry, j'ai eu rang triple S sur la majorité des missions. C'est vraiment facile à avoir, en fait, de faire des combos. La difficulté est de rester au rang triple S et non pas de l'atteindre.
Voilà.
Et ils ont changé donc les combos en mettant plus de coups avec l'épée principale, et surtout des armes qui étaient angéliques et démoniaques. Et donc on frappait les ennemis démoniaques avec les armes angéliques et les ennemis angéliques avec les armes démoniaques. Le problème, c'est qu'on pouvait pas faire l'inverse. Et donc du coup, c'était ennemi bleu, arme bleue, ennemi rouge, arme rouge. Ce qui pour moi était en fait ça a été une énorme déception, parce que je pouvais pas faire les combos que je voulais sur l'ennemi que je voulais, et donc ça enlevait complètement la liberté en fait de combat du jeu, c'est-à-dire que je pouvais pas, donc moi il y avait une arme que j'aimais bien, par exemple dans le nouveau c'était une hache, il se trouve que c'est une arme démoniaque, et donc je ne pouvais taper que sur un type d'ennemi avec cette arme, peu importe à quel point j'aimais les coups ou j'aimais me battre avec cette arme, je ne pouvais pas m'en servir contre certains ennemis, ça m'a énormément frustré.
Mais alors, est-ce que c'est pas un détail finalement pour le grand public, ce genre de choses,
hein? Alors peut-être pour le grand public oui, mais pour un joueur un tout petit peu aguerri, pas trop. Alors néanmoins, pour le grand public, ça peut être aussi pénible, parce qu'il se trouve que donc, cette mécanique se retrouve pendant tout le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis démoniaques et angéliques pendant tout le jeu, et donc on fait tout le temps la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve tout le temps à se dire je vais lancer mes shurikens sur tel ennemi, mettre un coup de hache sur tel ennemi, et peut-être attendre un petit peu de pouvoir utiliser toutes mes armes, tout mon panel d'armes sur les ennemis qui ne sont pas d'un côté ou de l'autre de la balance.
Ce qu'on peut dire de Devil May Cry, c'est surtout une série qui est à la fois pour les joueurs
parfois occasionnelle, mais oui, aussi pour les professionnels.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on peut s'y amuser, qu'on soit doué, qu'on soit pas doué, qu'on joue peu, qu'on joue beaucoup. C'est finalement une série qui est assez riche, hein, qui est vraiment à découvrir. Il y a des compilations d'ailleurs qui existent sur,
oui, sur 360.
PS3 et Xbox 360, qui compilent, je crois, les trois premiers.
Oui, et le 3 en version spéciale, et d'ailleurs.
Spéciale, avec tous les bonus. C'est vraiment une série qu'on aime, hein, finalement. Oui. C'est une série qu'on aime beaucoup ici. On est divisé sur le dernier épisode, mais ça ne fait pas de la série une horrible série.
Mais alors moi j'ai la question pour toi, Julien. Tu dis avoir beaucoup aimé ce DMC, mais est-ce que tu l'aurais pas plus aimé si c'était appelé autrement que DMC ? S'il avait pas porté le nom de la saga, est-ce que ça aurait changé quelque chose ?
Alors pas vraiment, puisque pour moi ce nouveau DMC, c'est un petit peu le petit frère un peu attardé du 3, mais attardé dans le bon sens, attardé qu'on a envie de caresser.
D'accord. Hein,
comment ? Je sais pas comment dire ça sans être vexant. Disons que c'est le petit frère sympathique qui prend beaucoup moins la tête. Moi je sais, je me prenais beaucoup la tête sur ceux d'avant. Moi, j'ai moins envie de me prendre la tête maintenant. Peut-être que je suis un peu plus vieux, peut-être que voilà, c'est plus comme avant. Mais justement, c'est cette facilité qui m'a donné plus envie d'y jouer. Voilà.
D'accord. Tout moi, simplement. Justement, c'est l'inverse.
Et l'univers aussi, parce que j'aime beaucoup le gros métal qui tâche. Comme
moi, c'était
comme
l'inverse. J'ai trouvé que c'était un petit peu ce petit frère qui essaye de faire comme son grand frère et qui met à sa sauce, qui veut tout changer. Et que du coup, j'aurais préféré en fait qu'il s'appelle autrement que Devil May Cry, ou que je puisse dire à mes copains, essaye ce jeu, c'est comme Devil May Cry, mais un petit peu différent.
D'accord.
Et à la place, je me suis retrouvé à jouer à ce jeu en me disant, c'est pas comme Devil May Cry.
Bon, et ben écoute, ce sera du coup le mot de la fin.
Je
pense qu'on arrive au bout de l'émission, Guillaume, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, on va. L'heure est bientôt finie.
D'accord. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous remercier déjà de nous avoir écoutés et peut-être d'être fidèles depuis déjà 6 émissions.
Oui.
Ce serait déjà beaucoup pour nous. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page Facebook officielle, donc c'est la faute à la manette.
Oui.
On fera un post spécial sur Radio Campus pour en parler justement.
Mm-hmm.
Sur cette page, vous pourrez retrouver toutes nos émissions, les thèmes des prochaines émissions. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra de toute façon en direct dans l'émission.
Oui, tout à fait.
Si également vous avez des envies d'aventure, vous avez des envies de nous rejoindre dans ce studio avec une barbe magnifique à côté de vous, qui est celle de Tom, vous pouvez participer.
N'hésitez pas, ouais.
Venez.
On vous dévoilera de toute façon les prochains thèmes, et si le thème vous intéresse, vous nous contactez et puis on s'arrangera peut-être pour vous faire venir. Et par contre, il faudra amener à manger.
Voilà.
Hein,
ouais.
C'est bien ça.
Spectateur qui ramène le manger. Voilà.
Eh bien écoutez, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à dans 2 semaines pour une émission, Guillaume, si je ne me trompe pas, spéciale
Japan Tour.
Normalement. Donc si on a le temps de tout enregistrer, tout ce qu'on a envie,
on va être les reporters sur la Japan Tour. On va essayer d'avoir Benzaï, Marcus et plein d'autres. Et
peut-être le joueur du grenier. Enfin, on essaiera de vous faire plein de surprises. On essaiera de faire plein de nouvelles choses pour cette émission. Voilà.
Allez, à bientôt sur Radio Campus Tour dans C'est la faute à manette. Bonne soirée.
À la prochaine.